Je ne sais pas si nos amis qui sont au fond entendront. Il y a encore de la place ici devant. Tu entends bien? Nous voulons demander encore une fois au Seigneur sa bénédiction sur ces quelques instants que nous passons ensemble. Il fait bon, notre Dieu, rester dans le silence devant toi, dans ce recueillement qui nous permet d'entendre ta voix, cette voix si douce, cette voix si pénétrante, qui peut apporter le baume à nos cœurs blessés, qui peut apporter la guérison à nos âmes malades. Dis seulement une parole, disait ce païen à Jésus. Et mon serviteur sera guéri. Nous voulons te demander que tu nous donnes une foi plus grande et que nous puissions croire éperdument que, malgré toutes les apparences, c'est toi qui auras le triomphe dans tous les cas. Garde-nous dans ce dernier moment et que vraiment nos cœurs soient préparés pour que nous puissions pousser ensemble dans la communion de ton Église universelle avec tous ceux qui, en tout lieu, aujourd'hui même, quelle que soit l'heure du pays où ils se trouvent, en ce moment, dise, viens, Seigneur Jésus. Nous attendons ta réponse. Amen. Je voudrais seulement dire une parole. Voyez-vous, depuis 1970, nous avons commencé avec ma femme bien-aimée, c'est quand Mahanaïm, et le Seigneur a permis que se joignent à nous nos bien-aimés collaborateurs qui, si fidèlement, pendant toutes ces années, ont travaillé avec nous dans le même esprit, ont partagé notre vision. Mais je voudrais dire très simplement, et il y a des personnes ici qui savent que c'est vrai ce que je dis là. Chaque année, nous avons pensé que c'était la dernière. Hein? Et nous n'avons pas pensé que nous étions des gens indispensables et que ça allait continuer. Mais le Seigneur nous avait poussés à commencer ce travail dans une certaine optique, dans une certaine vision, que ça plaise ou que ça plaise pas. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes, mais nous travaillons pour le Seigneur. Puis le jour où il veut que nous fassions autre chose, eh bien, il nous prend, puis il nous met ailleurs. Mais nous n'imposons pas nos camps. D'abord, ce n'est pas nos camps, c'est le camp de Dieu. Voilà pourquoi nous avons donné ce nom de Mahanaïm, parce que, au fond, c'est là que deux cohortes se sont rencontrées, que Jacob, qui avait vraiment cette crainte, cette peur de rencontrer son frère, eh bien, a eu cette vision d'ange, puis s'est écrié, mais c'est le camp de Dieu. Et il appela le lieu Mahanaïm, qui veut dire de bande. Eh bien, voilà, Nous disons toujours pour nous que c'est la dernière année. Puis c'est vrai, qu'est-ce que je peux dire pour l'année prochaine? Est-ce que nous serons encore là? Puis justement, nous ne sommes pas des êtres indispensables. Mais il est vrai qu'il y a des choses qui peuvent peut-être nous attrister. Mais nous voulons regarder au Seigneur et ne pas nous décourager. D'abord, il n'est pas question de notre œuvre, il est question de son œuvre. Et tout ce que nous désirons, c'est sa gloire. Mais Josaphat, sois encouragé ce soir. Le Seigneur te connaît, il t'aime et il sait ce que tu as fait pour lui. Cri de l'âme et réponse de Dieu. On a essayé de penser à quelques-uns de ces cris durant cette semaine. Ce premier, où est Dieu? Puis on a vu que c'était peut-être lui qui devait nous dire, où es-tu? Parce qu'au fond, c'est lui qui a poussé le premier cri. Cherchant Adam, il ne l'a pas trouvé. Et c'est lui qui a dit, où es-tu? Et j'y pensais encore cette nuit. Au fond, la réponse de Dieu, bien souvent, quand nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés, qu'il n'est pas là, il nous dit dans Ésaïe 50, pourquoi suis-je venu et il n'y a eu personne? Moi, je suis venu, et toi, tu n'étais pas là. Pourquoi suis-je venu et il n'y a eu personne? Pourquoi ai-je appelé et il n'y a eu personne qui répondit? Il était là, c'est nous qui n'étions pas là, et nous avons manqué la rencontre. Nous avons manqué la rencontre. Lui était là. Jéhovah Shammah, l'Éternel, est là. Il est toujours là. Mais nous, nous allons trop souvent à lui dans les derniers moments quand nous sommes à l'extrémité au lieu d'aller à lui dessus. Nous aurions perdu tellement moins de temps. Aller au Seigneur dessus, il est là. Mais nous allons rôder, chercher du secours ailleurs, et puis quand nous avons épuisé toutes nos ressources, toutes nos forces, désespérés, nous crions à Dieu, puis s'il ne se manifeste pas immédiatement, nous avons l'impression qu'il est perdu. Oui, eh bien que le Seigneur nous parle. Le Seigneur est toujours là. Il est proche. Mais donnons-lui la première place qu'il occupe vraiment notre pensée, notre première pensée. Et puis, après, on a vu pourquoi. Bien, je dirais aussi que on pourrait faire la réponse, puisqu'on a parlé de Pierre avec... Ça m'a fait tellement de bien de repasser toute cette vie de Pierre et d'écouter mon frère. Vous savez, quand on doit toujours donner, c'est une bénédiction de pouvoir recevoir, de pouvoir écouter. Te dire, maintenant, tu es là, assis, et puis tu peux écouter. Ma responsabilité, c'est de prier pour que mon frère soit soutenu, soit secouru, et puis que le Seigneur le guide. Et il l'a fait d'une façon si manifeste. Et cette communion, nous en avons parlé hier soir, elle est complète, et nous en louons le Seigneur, et nous le bénissons. Parce qu'il est dit, deux hommes marcheraient-ils ensemble s'ils n'étaient pas d'accord? Vous croyez qu'on ferait un camp ensemble si on n'était pas d'accord? Alors n'essayez jamais de trouver un désaccord. Parce que il y a différents aspects à certaines vérités. Alors des fois, on a souligné surtout un aspect, puis l'autre a souligné surtout un autre aspect. Mais on rassemble cela, et puis on a une vraie nourriture. Une nourriture solide. Et ce qui se passe, c'est tellement vrai ça, et on l'entend et on s'en aperçoit. Des fois les gens disent, vous nous avez dit cela, tu me sais que c'est l'autre prédicateur qui l'a dit. Mais ils ne savent plus qui c'est qui a dit cela. Et c'est ça qu'il faut. Car qui est-ce qui a dit cela? C'est le Seigneur. Il y a une seule fois. Il a différents canaux, mais c'est le Seigneur. Alors on peut attribuer à l'un ou à l'autre, sans aucune importance. Ce qui compte, c'est que ce soit du Seigneur. Ça vienne du Seigneur. Nous ne sommes que des canaux, et nous demandons simplement d'être assez vides de nous-mêmes pour que le Saint-Esprit ne puisse réellement passer Et comme nous l'avons vu, je ne pouvais pas élaborer davantage au sujet de la soupe, hein, ce soir, avec les enfants. Mais au fond, vous avez bien compris, Élisée allait servir un potage. Et puis il y a quelqu'un qui a pensé qu'il n'y avait pas assez dans ce potage, qu'ils allaient crever de faim avec le potage d'Élisée. Et il a cru qu'il devait y ajouter quelque chose. Et quand l'homme veut ajouter quelque chose à ce que l'Esprit de Dieu veut donner pleinement, qu'est-ce qui arrive? Il empoisonne tout le menu. Et c'est toujours cela, hein? Nous n'avons pas de connaissances, nous voulons mélanger, nous voulons prendre des choses du monde, puis les mettre dans la marmite du Seigneur. Et puis après, c'est immangeable. Et c'est souvent comme ça, certains sermons. Hein. Ils sont imbuvables, immangeables, puis ils vous donnent des coliques. Et on est complètement détraqué. Alors que quand c'est la parole qui a été prêchée dans la puissance du Saint-Esprit, la dépendance du Saint-Esprit, eh bien, vous êtes restauré. Ta parole m'a fait vivre. Elle nous fait du bien juste dans nos os. Et dans nos tripes, si tu veux. C'est un mot que tu as employé. Hein. Oui. Ben oui. C'est ça, on en a. Et, alors, on ressent cela. On ressent cela. Voilà ce que la parole de Dieu peut nous faire. Alors, c'est pourquoi. Eh bien, il y a des choses qu'on ne comprend pas tout de suite. Et je pense à Pierre, quand le Seigneur y a lavé les pieds, et il dit, non, non, Seigneur, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas. Tu ne comprends pas le pourquoi maintenant, mais tu le sauras plus tard. Et voyez-vous, faites confiance à Dieu au sujet de tous vos pourquoi. Le Seigneur a une pensée qu'il en fera revenir, comme dit Job, ce que son âme désire, il le fait, alors nous nous soumettons. Et puis nous nous rappelons ces réponses du Seigneur. Je connais moi les pensées que je pense à votre égard. Ce sont des pensées de paix, des projets de paix, non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Et un verset qui nous a été rappelé encore ce matin, 1 Corinthiens 10, verset 13, vous direz, je me répète, mais c'est aucune importance. Il faut que ces choses se gravent dans votre cœur. Eh bien, c'est Paul qui dit ça, aucune épreuve qui vous est arrivée elle n'a été au-delà de vos forces. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. C'est-à-dire, c'était humain la façon dont nous avons été éprouvés. Parce que si ça avait été surhumain, nous ne serions plus là. Et Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. On est tranquille. Je n'ai pas besoin de savoir le pourquoi maintenant. Je fais confiance au Seigneur qui me le révélera à son moment, à son heure. Et en attendant, bien, nous avons le Saint-Esprit en nous. Et quand nous ne savons pas comment nous devons demander quelque chose, eh bien, le Saint-Esprit prie et le Seigneur connaît la pensée de l'Esprit et il peut nous répondre. Et nous donner justement de pouvoir aller jusqu'au bout, jusqu'à sa délivrance. C'était le troisième cri, jusque-là, quand? Jusque-là, quand, Seigneur? J'accepte maintenant mon épreuve, mais ça ira jusque-là, quand? La réponse, j'ai une pensée, j'ai un but. Et alors, on s'en remet à la direction du Saint-Esprit. Puis après, on a vu c'est comment. Alors, vous aurez remarqué les réponses de Dieu à ces quatre comment que nous avons étudiés, c'est toujours le Saint-Esprit. Pour Zacharie, ça sera l'œuvre du Saint-Esprit qui opérera dans la vieille Élisabeth, et Élisabeth s'en rend compte, et elle loue le Seigneur, c'est une action de grâce. C'est l'Esprit de Dieu qui va opérer. L'enfant qui va se former en elle sera rempli du Saint-Esprit. La création, au fond, la formation de Jean-Baptiste est faite dans le sein de sa mère aussi par le Saint-Esprit. Bien sûr que c'était le fils de Zacharie, mais s'il n'y avait pas eu l'œuvre du Saint-Esprit, eh bien, Jean-Baptiste n'aurait jamais existé. Donc, quand on dit comment, mais c'est le Saint-Esprit qui va agir. C'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas Dieu Zacharie, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, pour Marie, quelle est la réponse de Dieu? Comment cela se fera-t-il? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et puis maintenant, pour la nouvelle naissance, pour le comment de Nicodème, qu'est-ce qui arrivera? Si tu ne nais d'eau et d'esprit. C'est de nouveau le Saint-Esprit. L'Esprit souffle où il veut. Comment ces choses peuvent-elles se faire? C'est l'Esprit qui va faire cela. Alors soyons spirituels, attendons-nous à ces manifestations du Saint-Esprit, nous y croyons. Mais pas des ersatz, hein, comme on dit. Pas quelque chose de fabriqué, pas quelque chose de faux, mais les vraies manifestations de l'Esprit, qui sont encore, nous le croyons, aussi, pour aujourd'hui, Dieu peut faire ce qu'il veut. Et, voyez-vous, tant qu'il nous voit chercher, avec les moyens du monde, de faire l'œuvre de Dieu, le Seigneur ne répand pas sur nous son Esprit. Le jour où nous en aurons fini, avec ces moyens du monde, alors nous aurons des moyens de Dieu. Et nous pourrons communiquer les choses spirituelles par des moyens spirituels, comme le dit l'Écriture. Mais tant que nous pensons que nous pouvons faire les choses avec nos moyens, à nous, avec les méthodes du monde, eh bien le Seigneur ne nous donne pas ces grandes bénédictions, cette onction du Saint-Esprit qu'il voudrait pourtant répandre dans son Église et parmi nous, les croyants. Ça, l'Esprit souffle où il veut. Donc c'est toujours le Saint-Esprit. Ah, c'est comment? Revenez au Saint-Esprit. Et c'est si vrai que le comment de Saint Paul, comment est-ce que les morts ressuscitent? Comment? Avec quel corps reviennent-ils? Eh bien, je crois que nous avons aussi la réponse dans Romains 8, verset 11, et nous retrouvons le Saint-Esprit. Si nous croyons, n'est-ce pas, que Jésus est mort et qu'il a été ressuscité et que maintenant le Christ est en nous, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Puis c'est ce verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Par son Esprit qui habite en vous. C'est de nouveau l'opération du Saint-Esprit. La résurrection aura lieu par l'opération du Saint-Esprit. Et puis maintenant, nous l'avons dit hier soir, dans la recherche de la volonté de Dieu, ce cri, ô Dieu, fais-moi connaître tes voies, bien, la réponse de Dieu, c'est, je t'instruirai, je te montrerai, la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, ayant mon œil vraiment sur toi. Je vous cite là le psaume 32e. Voilà, c'est écrit. Mais je voudrais tous les résumer ce soir par un autre cri, justement. Le cri qui devrait monter de nos cœurs. Quand nous voyons ce monde, la situation de ce monde, et que nous savons que le monde ne va pas s'améliorer, que la seule solution au problème du monde, c'est quoi? C'est le retour de Jésus-Christ. C'est la venue de Jésus-Christ. Mais est-ce qu'il a dit quelque chose à ce sujet? Avant de partir, est-ce qu'il a dit réellement quelque chose sur quoi on peut s'appuyer? Est-ce que nous sommes sûrs de cela, qu'il a dit qu'il reviendrait? Vous savez, c'est assez bouleversant quand vous êtes dans un auditoire entièrement catholique, puis que vous devez, pour la première fois peut-être, annoncer à ces gens-là, qui n'ont jamais entendu parler du retour du Seigneur, amis, qui croient que le retour du Seigneur, c'est à la mort, quand il vient chercher une âme, ou bien c'est quand on prend l'Eucharistie, alors le Seigneur vient là, à ce moment-là, il y a plusieurs pensées là-dessus, hein. Mais que Jésus reviendrait personnellement, et surtout qu'il reviendra sur les nuées du ciel, qu'il enlèvera premièrement les rachetés, ceux qui ont cru en lui, puis qu'il reviendra ensuite avec ses rachetés pour établir son règne. Le corps de Christ sera alors pleinement manifesté, la tête et son corps, parce que quand il reviendra en gloire, c'est le Christ total qui sera manifesté au monde. Donc, cette unité merveilleuse, tête et corps. Et tous les membres du corps auront été rendus semblables à lui. Mais tout cela va se passer avant qu'il ne revienne en gloire. Alors, qu'est-ce que nous attendons? Eh bien, nous attendons ce que l'apôtre Paul appelle la bienheureuse espérance qui doit avoir lieu avant l'apparition de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a donc bien deux actes dans la venue du Seigneur. Il revient d'abord sur les nuées pour les siens, ceux qui lui appartiennent, et qu'il enlève auprès de lui, alors que le monde impie, le monde incrédule continue sa marche. Les élus sont enlevés. Il y a une génération qui ne connaîtra pas la mort, qui, comme Élie, sera transportée dans la gloire sans avoir à passer par la mort. En un instant, nous dit l'apôtre Paul, en un clin d'œil, les morts vont. Nous sommes au Seigneur, nous serons en un instant transmués, changés. Nos corps de misère seront changés en des corps immortels, incorruptibles. Et avec les croyants qui nous avaient devancés et dont les corps reposaient dans la poussière, eh bien, nous allons nous retrouver sur les nuées du ciel. Pour y rester, là, dans les nuages, dans la pesanteur, comme ça. On sera dans la pesanteur. Non. Tout à coup, il va y avoir ce que nos astronautes ne connaissent pas. Cette attraction céleste. Parce qu'ils arrivent à s'arracher de l'attraction terrestre, mais ils ne connaissent pas l'attraction céleste. Et c'est cela que les croyants vont connaître. Tout à coup, là, quand on arrive à la pesanteur, il y a l'attraction céleste. Et c'est là le chemin qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas vu. Parce que c'est dans le lieu où il est que nous avons, que le Seigneur va nous introduire, dans les aimables demeures de la maison du Père, où il est allé nous préparer une place. C'est quelque chose de merveilleux. Ce ne sera pas sur un satellite que les hommes auront pu amener là, non, sur, avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Et là, le Seigneur examinera les œuvres de tous les rachetés. Nous passerons devant ce tribunal de Christ, non pas pour être jugés quant à nos âmes, mais quant à nos œuvres. Et c'est pourquoi, depuis notre conversion, notre vie, c'est un capital extraordinaire. Que faisons-nous de notre vie? Que faites-vous de votre vie? Est-ce que votre vie est au Seigneur? Parce que même si vous vous dites, mais moi je suis jeune encore, j'ai encore plusieurs années pour le Seigneur. Non, j'ai peut-être plus qu'un jour pour le Seigneur. Pour réaliser ce qu'il désire, pour réaliser sa pensée. C'est aujourd'hui que je dois vivre pleinement la volonté du Seigneur, c'est pas demain. Parce que demain, le Seigneur sera peut-être revenu.
c'est pas parce que je vais mourir que je dis ça. Mais j'attends pas la mort. Je suis bien comme mon père qui n'a jamais attendu la mort. Il a connu la mort, mais il ne l'a pas vue. Et j'étais frappé. Avant-hier, je lisais l'évangile de Jean et j'essayais de m'en pénétrer. Et j'entendais de nouveau Jésus dans un cri, « en vérité, je vous le dis, celui qui garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Mais vous voyez, celui qui garde quoi ? Ma parole. Et qu'est-ce que c'est garder sa parole ? C'est pas seulement la connaître, mais c'est la mettre en pratique. C'est ça, garder sa parole. C'est mettre en pratique cette parole. C'est le chapitre 8 de Jean, verset 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Même s'il faut mourir, nous ne verrons pas la mort. Et même si nous étions morts, nous vivrons. C'est ce que Jésus dit à Marthe au cimetière de Béthanie. Crois-tu cela ? Est-ce que vous croyez ? Une des grandes souffrances de mon père, c'est que quand il parlait du retour du Seigneur et de la venue du Seigneur, qui était sa joie, qui était son espérance, et qu'il prêchait là-dessus, bien souvent, il sentait que les gens n'étaient pas très heureux. Et ça l'affligeait. Et après les réunions, on venait lui dire, oui, mais monsieur Racine, si tu dis quand même passé par la mort. Il venait de parler de cette bienheureuse espérance qu'il y aurait une génération, et ça c'est biblique, je ne peux pas vous sortir tous les textes bibliques maintenant, mais croyez-le, il y a derrière nos pensées des textes bibliques que nous n'arrangeons pas nous-mêmes, mais qui sont l'expression de la volonté de Dieu, la volonté du Seigneur. Il n'y a pas de contradiction dans l'Écriture. Sondez les Écritures et vous verrez combien il y a une unité merveilleuse au sujet du retour du Seigneur. Eh bien, papa était réellement affligé. Et quand il entendait les gens lui dire, juste après qu'il ait parlé de cette possibilité, qu'eux aussi, s'ils étaient au Seigneur, ils seraient subitement enlevés auprès du Seigneur, et qu'on lui disait, et si vous deviez mourir, j'ai vu quelquefois qu'il était légèrement agacé. Il disait, pour mourir, j'ai besoin de personne. Si vous devez mourir, eh bien pour mourir, j'ai besoin de personne. Et le Seigneur nous prend au mort. C'est très drôle. Le Seigneur nous prend au mort. Il n'avait personne à côté de lui quand il est mort. C'était pendant le camp Mahanaïm, le premier camp, 1970. Il n'avait personne. Bien sûr, si j'avais su, moi, j'aurais été près de lui. Bien sûr. Mais non, il n'avait personne. Ma sœur, qui est infirmière, avait été près de lui. Il avait dû entrer à l'hôpital. Jusqu'à midi moins deux, il était encore assez bien, et puis elle était un peu fatiguée, alors il lui a dit, mais va te reposer, et puis, elle est partie, un instant, deux minutes après, l'infirmière est entrée, papa était mort. Et son visage resplendissait. Vous voyez qu'il avait vu la mort? Hein? La tête de mort? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il avait vu? Celui qui l'attendait. Celui qui l'attendait, il n'a pas vu la mort. Et je connais bien des personnes qui n'ont pas vu la mort. Parce qu'ils n'attendaient pas la mort. Qu'est-ce qu'ils attendaient ? Le Seigneur. Et vous, qu'est-ce que vous attendez ? La mort ? C'est la mort, votre espérance ? La mort ne fait pas partie de l'espérance chrétienne. c'est la venue du Seigneur. Et voyez-vous, je voudrais tellement qu'on puisse entendre ce cri. Et c'est pourquoi j'ai appelé la vraie prière œcuménique. Vous avez été sauté sur votre siège. Tu parles d'œcuménisme. L'œcuménisme, c'est l'abomination de la désolation, etc. Parce que dans les milieux évangéliques, on nous pontoyait certains mots. Mais œcuménique, ça veut dire toute la terre habitée tout entière. Il y a un faux œcuménisme, je suis tout à fait d'accord, qui amène à Babylone, mais il y a aussi un vrai œcuménisme. Un œcuménisme spirituel, nous nous sentons liés avec toutes les âmes qui, sur toute la surface de la terre, soupirent, parce qu'il y en a qui soupirent, après la venue du Seigneur. Et vous me direz, vous, que vous avez toutes sortes de bonnes raisons pour dire « je ne peux pas demander au Seigneur de revenir ». Pourquoi ? Quelles sont vos raisons ? Ben, vous avez des êtres chers qui ne sont pas encore donnés au Seigneur. Si vous voudriez que le Seigneur tarde jusqu'à ce qu'eux soient convertis, alors c'est que vous aimez mieux encore les vôtres que le Seigneur lui-même. Puis, les gens pour lesquels vous priez, est-ce que c'est selon la volonté de Dieu qu'ils soient sauvés? Combien est-ce qu'il faut de temps au Seigneur pour sauver une âme? Quand tout à coup la lumière se fait dans un cœur, ça met combien de temps? Un clin d'œil, tout à coup. La lumière. Alors pourquoi ne pensez-vous pas, pourquoi vous ne pourriez pas penser que le Seigneur est capable, même avant son retour, même si vous, vous ne le savez pas, de sauver l'âme pour laquelle vous avez prié? C'est pas nécessaire que vous voyez vous-même la chose. Mais ce qui est nécessaire, c'est que le Seigneur sache que vous soupirez après lui. Non pas pour vous évader de cette terre, et de vos responsabilités terrestres, et fuir loin de la souffrance, mais parce que vous l'aimez. Et moi, ce que je voudrais voir, c'est dans mon cœur une attente amoureuse de ton retour. Seigneur Jésus, viens. Pour quelle raison? Tu m'as aimé le premier. Et je voudrais te voir, je voudrais être semblable à toi. On chante à « Rends-moi conforme à toi, viens et me parle, rends-moi conforme à toi ». Et puis tout à coup, eh bien, quand est-ce qu'on sera conforme à lui, complètement? À sa venue. Pour l'instant, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire. Mais quand nous le verrons, nous, lui serons semblable, car nous le verrons tel qu'il est, et alors lui pourra présenter à son Père enfin son Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Vous ne croyez pas que le Seigneur languit après ce moment? Il aime son épouse et il voudrait la voir auprès de lui. Et il a fait une œuvre telle qu'il pourra se la présenter glorieuse sans tache, ni rien de semblable. Mais il voudrait que dans nos cœurs, il y ait un écho à son désir, que nous lui disions, viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Il n'y a pas d'obstacle. Vous me dites, justement, mais, et les âmes et l'évangélisation, le monde n'est pas encore converti. Vous croyez qu'il le sera un jour, sans le Seigneur? Quand est-ce que le monde entier sera converti? Quand le Seigneur règnera. Mais avant, quand on m'a dit qu'on avait planifié les choses pour que, en l'an 2000, le monde entier ait été évangélisé. Cyril Misère à poil. Hein? Oui, c'est une expression québécoise, je l'ai entendue. Hein? Je l'ai pas compris pendant longtemps, je l'ai dit quelques fois ça. C'est seulement une fois à Jérusalem, je me suis dit, mais ce Québécois, qu'est-ce qu'il veut me dire quand il dit de temps en temps misère à poil? Tout d'un coup, j'ai compris que ça s'est arrivé en un clin d'œil. C'est misère toute nue, à poil. La misère, vraiment de misère. Hein. La misère toute nue, il n'y a plus rien. Et à poil. Mais c'est ça. Hein. Alors, si vous attendez que le monde soit converti, qu'est-ce qu'il y aura? Il y a toujours les enfants de la chair qui vont naître, puis devront encore se convertir. Alors, si vous attendez que le monde entier soit converti, eh bien, ça n'arrivera jamais. Vous devez sonder les Écritures et vous dire, mais que dit la parole, que dit le Seigneur. Voilà. Alors, quel est l'effet que me fait le retour du Seigneur? La pensée que le Seigneur vient, et c'est ça qui était la force de l'Église primitive. Ils se saluaient, les chrétiens, quand ils se rencontraient en disant quoi? Maranatha. Le Seigneur vient pour s'exciter à la vigilance. Et l'attente constante du Seigneur dans l'Église primitive n'a pas du tout paralysé l'évangélisation. Au contraire, ça l'a activé. Hein? Parce qu'on attendait le Seigneur, tous les jours, on évangélisait. Parce qu'on savait que demain ne nous appartenait pas. Hein? Il n'y a pas une vérité plus capable de stimuler l'évangélisation que l'attente constante du retour du Seigneur. C'est le message qui peut vous réveiller, mes frères et sœurs, et qui doit me réveiller face à mes responsabilités d'évangéliste et d'évangéliser les âmes, le monde. C'est une vérité donc dont j'ai besoin. Seigneur Jésus vient, si je dis cela, il me dit, alors, en attendant ma venue, jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que tu dois faire? Témoigne. Témoigne. En temps et hors de temps, prêche la parole. Et l'attente du Seigneur, il n'y a pas de vérité qui me sanctifie autant que cette pensée. Le Seigneur vient. Alors, comment voudrais-je être trouvé à sa venue? Et où voudrais-je être trouvé à sa venue? Qu'est-ce que je voudrais faire quand le Seigneur me trouvera? Oh, que je sois occupé de lui. Il n'y a pas de vérité plus sanctifiante. Je dis souvent, je ne voudrais pas être où je ne voudrais être trouvé quand Jésus vient. Je ne voudrais pas dire qui pourrait déplaire au Seigneur quand tout à coup la trompette sonnera. Alors, ça sanctifie nos paroles, ça sanctifie notre marche, l'attente constante du Seigneur. Et puis, un autre effet de l'attente du Seigneur, on a vu qu'il nous réveille vis-à-vis de nos responsabilités d'évangélisation. On voit que cette vérité nous sanctifie. Et troisièmement, qu'est-ce qu'on peut dire? Quand nous perdons un bien-aimé, cette vérité nous console. C'est pas pour toujours que nous sommes séparés. Et c'est là ce merveilleux chapitre 4 de la première épître aux Thessaloniciens. L'apôtre ne veut pas que nous pleurions comme ceux qui sont sans espérance. Quand une âme s'est endormie dans le Seigneur, eh bien, nous devons connaître qui va arriver. Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, à la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront et nous, les vivants, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Puis il est ajouté, consolez-vous l'un l'autre par ces paroles. Donc c'est une parole consolante. Il n'y a pas de vérité plus consolante que la venue du Seigneur. Il vient. Puis, je dirais qu'il n'y a pas de vérité qui peut unir davantage les chrétiens que cette espérance. De quel milieu faites-vous partie? Quelle est votre étiquette religieuse? C'est ça, vous n'allez pas prendre ça avec vous, votre étiquette, si vous en avez une. Ou papa disait, en tout cas, moi, j'apporterai pas mes barrières dans le ciel. Est-ce que vous apporterez vos barrières là-haut pour faire vos petits enclos? Non, mes amis. Quand on sait, nous sommes les membres du corps de Christ. Alors, quand on pense que le Seigneur va venir, comment est-ce qu'on doit saluer notre frère d'un autre groupe, d'un autre milieu? C'est mon frère. Ma sœur. Peut-être qu'on ne partage pas toutes les mêmes pensées, mais oui ou non, est-ce qu'il est au Seigneur? Est-ce que c'est un racheté du Seigneur? si vous pouvez dire oui. Alors, qu'est-ce qu'il est pour vous? Cousin éloigné? Frères et sœurs en Christ, nous avons le même Père. Il n'y a pas de vérité qui puisse nous unir davantage. L'esprit et l'épouse disent « viens ». Que celui qui entend dise « viens ». Que celui qui a soif vienne. Et alors, quand on dit, quand il y a ce cri de l'âme « viens Seigneur Jésus », quelle est la réponse? Oui, je viens. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Il vient promptement. Et vous savez, un jour, on ne dira plus que le Seigneur va venir. Un jour, il sera venu. Un matin, on commencera la journée, ce sera le dernier matin. Un soir, on finira la journée, ce sera le dernier soir. On ira se coucher. Vous me direz, mais est-ce que c'est de nuit ou est-ce que c'est de jour que le Seigneur viendra? C'est de la stupidité. Parce que pour les uns, ça sera la nuit, puis pour les autres, ce sera le jour. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'il est dit, vous n'avez ni le jour ni l'heure. Il y a le décalage horaire. Alors, ni le jour. Parce que des fois, quand on voyage, on se rend compte qu'on est un jour avant ou un jour en retard. Et puis, ce n'est pas la même heure. Mais ce sera quand même le même moment. En un instant. Et vous vous rendez compte, tous réunis sur les nuées du ciel. Ceux qui lui appartiennent. Qu'est-ce qui les connaît? Je suis bien aimé ce que notre frère a dit. On ne peut pas dire à une personne, tu es sauvé ou tu n'es pas sauvé. Ce n'est pas notre affaire. Ce n'est pas notre affaire. Vous n'avez pas le droit de juger. Et vous ne savez pas ce qui s'est passé dans ce dernier instant entre une âme et le Seigneur. Vous ne l'avez peut-être pas entendu confesser le Seigneur. Vous-même. Mais vous n'avez pas le droit de dire qu'il n'a pas fait. Vous ne savez pas ce qui se passe dans les cœurs. Et Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu d'amour. Alors, même si vous, vous ne savez pas, eh bien, regardez à la miséricorde du Seigneur. Et dites-vous, c'est toi Seigneur qui juge, c'est pas moi. C'est pas à moi de juger. Alors, nous faisons confiance au Seigneur. Mais, nous devenons de plus en plus sérieux. Parce que nous savons que nous ne sommes pas d'en bas, nous sommes d'en haut. Notre bourgeoisie est dans les cieux, d'où nous attendons le Seigneur Jésus comme sauveur, qui transformera notre corps de souffrance, notre corps d'humiliation, en la conformité de son corps de gloire, selon ce pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et en un instant, nous en irons vers le Seigneur. Et vous savez, je vous disais que c'était impressionnant quand on est devant un auditoire catholique. Mais ils ont leur Bible maintenant. Alors, on leur dit, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce retour du Seigneur? Non, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Et ils pensent que c'est une doctrine, peut-être, d'une secte. Et alors, quand on leur dit, mais quand vous prenez l'Eucharistie, eh bien, qu'est-ce qu'on vous lit? Parce que c'est quand même la parole qui est lue, ou qui est dite. Jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Donc il est venu, et puis maintenant nous nous souvenons de lui dans l'Eucharistie, dans la fraction du pain, et puis nous l'attendons. Nous le faisons jusqu'à ce qu'il vienne, mais quand il sera venu, nous n'aurons plus besoin de cela. Il ne faut pas croire que les gens sont stupides. Ils comprennent, mais on ne leur a jamais dit. Et alors, quand ils ont leur Bible ouverte, et que vous leur dites, eh bien, on prend 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et puis on leur dit ceci. Si nous croyons, on leur fait lire ça, hein, alors tout le monde dit, à haute voix, hein, si nous croyons que Jésus mourut, est-ce que vous le croyez? Ben, dites oui. Hein, ils sont d'accord. Il y a des croix partout. Il y avait. Mais il y avait des précisions un peu dans tout. Bon, mais ça, ils le croient. Hein. Vous croyez que Jésus est mort. Un bon catholique, il y croit. Hein. Et qu'il est ressuscité. Est-ce que vous y croyez? Ils disent oui. Alors, ils disent eux-mêmes, croyons aussi. Vous comprenez? Et là, c'est une vérité qui commence à les pénétrer. Croyons aussi, mais il faut les aimer, ces âmes, pour qu'elles comprennent et puis qu'elles arrivent à elles aussi à croire. Croyons aussi. Et alors, c'est une grande espérance. Moi, je me souviendrai toujours d'une personne que j'ai bien connue et qui un jour m'a dit « Et vous avez mis tant de temps pour me révéler cette vérité ?» J'avais été l'instrument pour l'amener au Seigneur, mais je n'avais pas parlé tout de suite du retour du Seigneur. Mais ça a transformé sa vie, elle est auprès du Seigneur maintenant. Ça a bouleversé sa vie. Et sa vie, depuis ce moment-là, depuis qu'elle a su que le Seigneur venait et qu'il pouvait venir dans le vallon, elle n'a plus vécu que pour ça, que pour lui. Et elle a travaillé, hein, jusqu'à ce qu'il la reprenne. C'est cela qui fait, voyez-vous, attendre le Seigneur. Et c'est ça le cri de notre âme. Le cri de notre âme, nous chantons les cantiques. Et puis alors, puisque c'est là que vous allez aller, commencer à vous intéresser aux choses qui sont en haut. Abraham, qu'est-ce qui le soutenait? Il attendait là. Cité. Il attendait la cité. Il avait cette vision de la cité, de cette Jérusalem, dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Moïse, ce qu'il a soutenu au désert, il regardait à celui qui était invisible. C'est les choses invisibles qui deviennent les réalités les plus profondes pour nous. Nous sommes dans les choses de la terre, mais pensez aux choses qui sont en haut. Vous direz, mais je n'ai pas le temps. Quand vous commencerez à penser un peu aux choses qui sont en haut, Dieu vous donnera tellement de temps aussi pour faire les choses ici-bas. Croyez. Si vous donnez au Seigneur la première place, tout va changer dans votre vie. Alors, cri de notre âme, est-ce que vous voulez demander au Seigneur, bien, donne-moi de pouvoir crier, viens Seigneur Jésus, et de pouvoir me réjouir. Et puis si ce soir, je ne peux pas te dire encore, viens Seigneur Jésus, montre-moi pas. Qu'est-ce qui peut m'empêcher de dire « Viens, Seigneur Jésus » et de me réjouir s'il dit « Je viens bientôt. Je viens bientôt. » Vous savez, ce n'est pas mortuaire, ça. Aller au ciel sans passer par le salon funéraire, quel soleil. Vous rendez compte? Aller au ciel sans passer par la mort. Enoch, Élie, on connaît cela. Jésus ressuscité est monté au ciel. Et nous aussi, nous allons être enlevés. Et si nous n'étions pas enlevés, parce que le Seigneur tarde encore, quoiqu'il n'y ait pas de retard à sa venue, mais ça c'est son voix, c'est son heure, eh bien, si nous devions passer par la mort, nous nous endormons dans l'espérance de la résurrection. Nous voulons prier. Seigneur, sous ce ciel du 5 août, tu nous vois quelques-uns rassemblés, une fois encore, à Cedarlog. Et nous voudrions être transparents, nous voudrions être vrais. Et te demander que tu travailles dans nos vies, dans nos cœurs, pour que nous arrivions à nous réjouir de cette venue si prochaine. Car tout nous dit que tu viens bientôt. Nous voyons le monde s'en aller irrévocablement vers le jugement, vers un jugement qui sera à la mesure de son impiété. Mais nous voulons te demander que l'on puisse voir dans ce monde l'épouse de Christ, la femme de l'agneau, qui se prépare en vue de ses noces, qui doivent avoir lieu bientôt. Dans la sainteté.
Oh, donne-nous si nous avons dit notre oui
un jour à ta parole.
Si nous t'avons dit oui, Seigneur, je veux te suivre. Donne-nous de considérer que ce oui était un oui définitif, le oui d'une fiancée à son fiancé. Et que désormais nos âmes sont liées au Christ, comme le dit saint Paul. Je vous ai fiancé à Christ. Comme une vierge chaste. Et que maintenant, les sollicitations du monde, que nous soyons capables de les repousser parce que nous sommes à Christ, nous lui appartenons, et que nous puissions nous préparer pour ce jour des noces, comme une fiancée prépare son trousseau, donne-nous aussi de nous préparer, pour qu'un jour tu puisses dire, l'épouse, la femme de l'agneau, s'est revêtue de vêtements de fin lin éclatants et purs, qui sont les justices des saints. Donne-nous de nous laisser faire, de te laisser travailler en nous, et d'accomplir en nous ces justices, qui ne sont pas les nôtres, mais qui sont le fruit que ton esprit produit en chacune de nos vies. Nous nous laissons faire. C'est la grâce que nous te demandons. Pour qu'à tout instant, Seigneur, occupé des choses d'en haut, nous puissions dire, oh viens, Seigneur Jésus. Et que nous puissions t'entendre nous répondre, oui, encore un peu de temps, et celui qui vient, viendra. Et il ne tardera pas. Ne rejetez pas loin votre confiance qui a une très grande récompense. Et qu'en quittant ce camp de l'acte, qu'en quittant ces lieux bénis, nous puissions être de ceux qui se donnent rendez-vous sur les nuées du ciel pour l'heure de ta venue. Et qu'ensemble, dans la communion de l'esprit et de l'épouse, nous puissions dire réellement, viens, Seigneur.